Bon matin, Espoir, ça va bien? Vraiment très très heureux de pouvoir être là avec vous ce matin, d'ouvrir la parole de Dieu et voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Waouh! Je vous voyais, maintenant je ne vous vois plus. Ça va, c'est correct. Oui, vraiment très heureux d'être là avec vous pour voir ce que Dieu veut nous dire dans notre série Puissance. Tiré et inspiré du livre de Romains. C'est une belle épître, n'est-ce pas? On voit la puissance manifestée en Jésus-Christ dans cette épître, et on voit que ce n'est pas juste quelque chose de lointain, on voit que c'est aussi personnel pour nos vies. En tout cas, moi, je suis émerveillé, je suis vraiment reconnaissant qu'on fasse cette série de prédications, qu'on puisse voir ce que Dieu veut nous enseigner dans notre temps actuel en Église. Avec cet épître. Mais avant de nous plonger un peu plus dans le cœur de notre passage qu'on va voir ce matin, j'aimerais vous raconter un miracle qui s'est passé dans ma vie, celle de ma famille, dans les dernières semaines. Ça vous va? Vous êtes prêts? Comme vous le savez, ça fait 2 ans qu'on est ici au Québec avec Léa. Et on est vraiment très heureux d'être là, on est convaincus que ça vient de Dieu, que c'est une conviction que Dieu nous a mis à cœur de venir le servir ici au Québec, particulièrement dans cette église, l'église de l'Espoir. Et puis, on a pas mal cheminé avec vous dans nos réflexions, dans les temps de discernement, de prière. Puis, c'est ça, vraiment la conviction que Dieu nous appelait à nous établir ici. Pas juste un coup de vent, nous établir ici. Et le servir profondément. Mais très vite, on a réalisé que ça, c'était possible à une seule condition. En fait, avec un seul papier, un permis de travail. J'avais un permis de travail temporaire de 2 ans, avec une date de fin très précise, le 14 mars 2026. Alors en septembre, on a commencé toutes les démarches nécessaires pour faire une demande de renouvellement de mon permis de travail. Un permis fermé, rattaché à l'église de l'Espoir, pour une durée qui est liée à mon contrat avec l'église, donc une durée de 5 ans. Sur le papier, c'était clair, tout était bien présenté, mais dans la réalité, ça s'est un peu compliqué. Comme vous êtes censé le savoir, les lois sur l'immigration ont changé au cours de l'année 2025. Et autour de nous, on voyait des Français, des immigrants devoir rentrer dans leur pays. Des gens pourtant bien installés, des gens engagés dans différents domaines, des gens qui se voyaient rester à long terme ici, s'établir, bâtir une famille, tout ça, tout comme nous en fait. Et qui finalement se voyaient devoir rentrer chez eux, obligés de rentrer dans leur pays. Et puis pour nous, les mois passent, puis aucune réponse. Aucune réponse de la part du gouvernement. Puis là, le silence se fait de plus en plus pesant. Plus le temps avance, plus il y a une question qui est là. Est-ce que nous aussi, on va devoir repartir? Si le permis n'arrive pas, c'est-à-dire que j'ai plus le droit de travailler? Ça veut dire que le permis de Léa n'est plus valide parce qu'il était rattaché au mien. Et donc, plus de permis, plus de RAMQ. Et donc, vous voyez la difficulté arriver. Et donc, plus de RAMQ aussi pour Agathe, même si elle est citoyenne ici, sa RAMQ est rattachée à la nôtre. Vous voyez le genre de problématique pour beaucoup d'immigrants. Vous savez ça, vous sentez ça, vous avez vécu ça. Et donc, on était là en disant, peut-être qu'il va falloir envisager le retour en France. Ça nous faisait mal au cœur. Puis pendant ce temps-là, vous venez de me voter comme pasteur. Donc, on avait des projets, on parlait d'avenir, on parlait de construire une église forte, une église qui rayonne, une église qui s'émerveille de l'évangile de Jésus. Mais comment est-ce que tu construis quand tu sais que dans quelques semaines, tout pourrait s'arrêter? Je vais être honnête avec vous, il y a des moments où ma foi était extrêmement forte, où j'étais convaincu, complètement persuadé que Dieu allait répondre et que Dieu allait faire un miracle. Mais des fois, dans la même journée, des fois, dans l'heure même, ma foi était anéantie, complètement tremblante, complètement remplie de doutes, d'incompréhension, de lutte, avec des questions. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu entends mes prières? Sérieusement, pourquoi tant de silence? Pourquoi pas de réponse? La date approche. Et toujours pas de réponse. Pourquoi tu m'infliges cette souffrance, cette attente, alors que j'ai tout sacrifié pour venir avec ma famille, déraciner ma famille et venir ici au Québec? Tout quitter de la France pour venir ici, pour toi. Un jour où ma foi était vraiment faible, c'était celui où on est allé voir notre avocat, expert en immigration, et qui nous a dit, franchement, il y a très peu de chances que votre permis soit renouvelé. Puis s'il est renouvelé, oubliez ça, il ne va pas être renouvelé dans les bons détails qu'il faut, dans les bons numéros de code. Donc Léa, le permis de Léa ne pourrait pas être rattaché. Enfin bref, vous serez quand même obligé de rentrer. Ou alors, l'option que vous pouvez choisir, c'est de partir dans une autre province du Québec, du Canada, et demander une résidence permanente express. Bon, comme je vous ai dit au début, notre désir, c'était de servir le Québec. Donc c'était vraiment des moments difficiles, éprouvants. Et pourtant, j'ai commencé en vous disant que je voulais vous parler d'un miracle, n'est-ce pas? Vous voyez où je veux en venir? Dieu a pourvu. J'ai mon permis de travail juste ici. Dieu a opéré un miracle. Et ça, dans des temps incroyables, que jamais personne n'aurait pu penser. Dieu a répondu plus vite que ce que le gouvernement avait annoncé comme temps d'attente. Amen. Incroyable. Puis vous savez quoi? Ce permis de travail, il est exactement dans les bons termes qu'on avait demandé. Donc Léa peut demander son permis de travail à son tour. Puis vous savez quoi encore? Parce que ce n'est pas fini avec Dieu. Ça continue. C'est un permis valable pour 5 ans. Puis la semaine dernière, Léa a été invitée à une conférence en Écosse, ce qui fait qu'elle aussi a pu demander à son retour un permis de travail. Et ce n'est pas une photocopie, hein, je vous rassure. Ce sont des vrais. Je suis vraiment extrêmement reconnaissant à Dieu. Dieu a pourvu au-delà. Honnêtement, je suis encore extrêmement ému, chamboulé de cette situation-là. Tous les immigrants, vous connaissez cette réalité particulièrement. Puis là, vous vous dites, pourquoi Clément, il commence par ça? Déjà, parce que je voulais faire une chose, vous remercier et remercier notre grand Dieu. Beaucoup d'entre vous ont prié pour ça, ont jeûné et prié pour ça. Alors, un grand merci. Votre soutien dans cette épreuve dans notre famille a été vraiment quelque chose qui a édifié notre foi, encouragé à continuer à espérer en Dieu. Donc un grand, grand merci. Mais aussi parce que, je vous partage ça aussi, parce que je crois que nous sommes tous, à un moment donné dans notre vie, dans un temps d'attente. Et qu'avec ce temps d'attente vient son lot de souffrances. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous avez une situation en tête? J'aimerais vraiment que vous ayez la situation, dans votre cas, en tête. Je sais que certains d'entre vous attendaient aussi un permis de travail, une résidence permanente, une citoyenneté peut-être. Certains d'entre vous attendaient que votre enfant, pour lequel vous priez quotidiennement, renoue enfin le contact avec vous. Que cet enfant vient à connaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et vous êtes dans l'attente. Je sais que certains d'entre vous attendaient de bonnes nouvelles concernant la fin d'une guerre dans votre pays d'origine, où vous savez que votre famille est constamment en danger. Et vous attendez enfin que ce jour vienne où la guerre va cesser. Je sais que certains d'entre vous soupiraient après le fait d'avoir un enfant. parce que vous ne pouvez pas en avoir. Peut-être à cause d'une maladie, peut-être que les fausses couches se font en répétition, vous êtes complètement découragé. Peut-être que certains d'entre vous, vous attendez le jour où le médecin va enfin avoir une bonne nouvelle à vous annoncer concernant votre maladie. Peut-être que certains d'entre vous vivent des temps difficiles dans votre famille, dans vos relations conjugales, et que vous attendez enfin ce jour où ça sera fini. Vous voyez, peu importe l'attente, je suis convaincu qu'on passe dans notre vie tous un moment où on attend et que cette attente amène son lot de souffrance. Et dans le passage qu'on va voir, qui est absolument merveilleux, c'est exactement ce que Paul veut faire. Il veut nous encourager. Il veut nous dire qu'au cœur même de la souffrance de l'attente, notre vie est plus sûre et plus glorieuse qu'on ne le pense. Amen. Alors je vous invite à venir avec moi dans Romains chapitre 8. Ce matin, c'est moi qui vais faire la lecture. Romains chapitre 8, à partir des versets 18. Et on va aller jusqu'à la fin, jusqu'au verset 39. Je lis. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'Esprit. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? C'est Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ce matin, j'aimerais voir avec vous que sur la base de ce passage absolument magnifique, énorme, que l'attente dans la souffrance n'est pas la preuve que Dieu a cessé d'agir ou de m'aimer. Au contraire, elle se déroule à l'intérieur d'une histoire déjà sécurisée par la croix, par la résurrection et par l'amour de Dieu. Mon premier point, c'est que ça commence avec cette vérité fondamentale qu'une gloire à venir nous est réservée et qui dépasse toute souffrance. Je remarque qu'il y a quelque chose d'étrange dans nos vies. C'est que quand on souffre, c'est à la fois plus lourd, mais aussi plus petit. Plus lourd parce qu'on a l'impression que la douleur est insoutenable et partout où on va, elle est là, elle est écrasante et toujours plus écrasante. Et plus petit parce que, en fait, notre champ de vision se rétrécit complètement et on n'en devient plus que focalisé sur la douleur. On regarde notre situation, on regarde notre attente, on regarde le silence, et on finit presque par croire que toute notre histoire dépend de la douleur. Et c'est exactement là où Paul vient nous chercher. Il ne commence pas par enlever la souffrance, il commence par élargir notre regard. Il dit en quelque sorte, tu vis à partir de ton attente, mais il faut que tu apprennes à vivre à partir de la gloire à venir. Parce que oui, la souffrance est bel et bien réelle. Commence au verset 18 en disant, j'estime que les souffrances du temps présent. Quand on est un peu familier avec l'apôtre Paul, on sait à quel point lui, il a souffert par ses nombreux séjours en prison, mais aussi par une souffrance personnelle. Il dit lui-même qu'il a comme une écharde dans la chair, quelque chose de douloureux, quelque chose de persistant. Et à plusieurs reprises, il a demandé à Dieu de l'enlever. Et pourtant, Dieu ne l'a pas fait. Pour Paul, les souffrances, ce n'est aucunement des illusions. C'est quelque chose de réel. Il n'enlève pas du tout la difficulté des souffrances et de l'attente. Mais il veut montrer que même si la souffrance est réelle, la souffrance ne dit pas toute la vérité. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de tellement plus grand que ça ne peut même pas se comparer. Verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est pas un peu mieux, c'est pas comparable, c'est kiff-kiff. Non, c'est incomparable. Pourquoi ? Parce que ce qui vient, c'est pas juste une amélioration de ta situation. Ce qui vient, c'est la fin de ce qui te fait souffrir. C'est la fin de l'attente, c'est la fin du doute, c'est la fin de la fatigue, c'est la fin des combats intérieurs, c'est la fin des silences incompris. C'est la restauration de toute chose. Mais plus encore, ce qui vient, c'est Dieu lui-même. C'est être enfin avec lui, sans distance, sans voile, sans péché. C'est plus jamais se demander, Dieu, où tu es ? Parce qu'il sera lui-même avec nous. Sa présence nous environnera complètement. Et Paul dit, ça ne se compare pas. Parce que la gloire à venir, ce n'est pas juste moins de souffrance, c'est la plénitude de la joie en Dieu. Et tout dans ce passage nous pousse dans cette direction. Vous avez noté que même la création elle-même, elle soupire après ça. Elle soupire après la gloire à venir. Verset 19 et 22 dit... Aussi, la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire nous. Or, nous savons, jusqu'à ce jour, La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Quand j'ai lu ce texte cette semaine, j'ai trouvé le parallèle incroyable. Cherchez une illustration pour montrer ça. Et en fait, l'illustration est déjà dans le texte. Les douleurs de l'enfantement. Ce parallèle, il est incroyable. Parce que l'accouchement, c'est profondément douloureux. N'est-ce pas, mesdames ? C'est intense. C'est long. Mais ce n'est pas juste une douleur absurde. C'est une douleur qui est orientée vers une naissance. Puis quand l'enfant est venu dans les bras, on dit que les mères en oublient les souffrances, la douleur. Pour ça que certaines osent faire le pas d'en faire un deuxième ou un troisième. Mais vous voyez ce que je veux dire ici ? Vous voyez à quel point l'image est tellement bien choisie ? On est dans un lot de temps de souffrance, c'est long, c'est pénible, c'est difficile. Mais ce qui arrive après est tellement plus grand, tellement plus glorieux. Ça n'enlève pas les souffrances qui se sont passées. Mais c'est une joie incomparable. Et Paul dit, c'est exactement ça qu'on vit. Vous n'êtes pas en train de souffrir dans le vide, vous êtes en train de souffrir en direction de la gloire à venir. Et donc, de la même manière que la création soupire à un renouveau, nous aussi, on soupire. Pas forcément par un manque de foi, mais parce qu'on a déjà goûté à Dieu, on a déjà goûté à son salut, on a déjà goûté à sa présence. Et donc, on soupire du jour où on sera pleinement dans sa présence. Sauvés en espérance, donc on attend avec espérance. Avec persévérance, ce qui vient. Et aujourd'hui, si tu es encore dans l'attente, sans voir de réponse, si tu es en Christ, alors tu as déjà cette espérance de la gloire à venir. Et un jour, tu te diras, ça ne se compare même pas. Ça n'a rien à voir. Ça valait le coup. C'est vraiment une vérité que j'aimerais vous encourager à saisir vraiment dans ces temps de souffrance de l'attente. Deuxième vérité que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'il y a un esprit, l'esprit de Dieu, qui intercède dans notre faiblesse. Paul continue en disant, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il ne dit pas, l'Esprit nous aide dans notre force. Il ne dit pas, quand tout va bien. Il dit, dans notre faiblesse. Pense à ces moments où quand il y a quelqu'un qui te dit, ça va ? Puis toi, tu réponds, ouais, pas si pire. Oh, ouais, ça va. Mais tu dis ça parce que, pas parce que tu le penses vraiment, mais parce qu'en fait, l'histoire serait trop longue à raconter pour dire que ça ne va pas. Parce que ça te demanderait de réouvrir quelque chose de douloureux et que tu n'as pas la force de mettre du temps dans l'explication. Tu n'as même pas forcément le goût que cette personne le sache. Et que pourtant, à l'intérieur, il y aurait tellement plus. Tu aurais tellement envie de dire des choses pour que cette personne compatisse avec toi. Peut-être que la seule chose que tu arrives finalement à dire, c'est « En vrai, ça va pas fort, mais je n'ai pas le goût de t'expliquer. Prie pour moi juste, s'il te plaît. » Alors, sans connaître le fond du problème, cette personne, elle demande à Dieu d'intervenir en ta faveur. Est-ce que ça ne fait pas du bien ? Je trouve que ça fait tellement du bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour nous. Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède pour nous. Quand on reconnaît notre faiblesse, l'Esprit nous aide, il expose nos besoins devant Dieu. Et c'est tellement libérateur d'avoir quelqu'un qui intercède pour nous dans ces moments où on ne sait pas quoi dire. Paul dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde des cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En d'autres termes, Dieu, par son esprit, prie lui-même pour toi. Tu sais, c'est un peu comme ce moment où tu as appris quelqu'un a perdu à notre chair, que tu voudrais lui envoyer un message de condoléances, puis tu veux bien faire, tu veux bien écrire, tu veux être réconfortant, mais tu ne trouves pas les bons mots. Tu écris, puis tu effaces, puis tu réécris, puis tu réeffaces, et puis tu dis « Ah, j'espère que je ne vais pas le blesser, le déranger. » Puis finalement, tu te dis « Bon, tant pis, je ne le fais pas. » Mais ce n'est pas que tu ne le fais pas par manque d'intérêt, c'est parce que tu « Ah, je n'ai pas les mots, je compatis tellement, mais c'est difficile. » Ton cœur aimerait dire tellement plus, mais ça ne sort pas. C'est exactement ça que Paul décrit. Des moments où ton cœur est plein, mais que ta bouche ne sait pas quoi dire. Ces soupirs inexprimables, ce n'est pas quelque chose de mystérieux réservé à quelques-uns, c'est simplement une réalité qu'il y a des choses qui sont trop profondes pour être mises en mots. Des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer, des attentes qu'on n'arrive pas à formuler, des combats intérieurs qu'on n'arrive même plus à décrire. Et Paul dit, même ça, Dieu le prend. Dieu le comprend parfaitement. Il sait ce qui se passe en toi. Même ce que toi, tu ne comprends pas, lui, il sait. Et il expose ça lui-même devant le Père. Et écoute bien ça. Dieu ne fait pas juste que t'écouter. Dieu, par son esprit, Dieu prie pour toi. Autrement dit, quand tu ne sais plus quoi prier, il fait déjà une prière parfaite qui est en train de monter vers Dieu le Père. Parce que Jésus sait, il sait ce que c'est de souffrir, il sait ce que c'est que d'attendre, il sait ce que c'est que de pleurer, et par son esprit, s'approche de toi, jusque dans cet endroit-là, et il prie Dieu le Père pour toi. Ça veut dire que tu n'es jamais seul dans des temps de prière. Même quand tu as l'impression que rien ne se passe, Dieu est là. Même quand tu as l'impression que tes prières sont brouillons, il y a une œuvre invisible, mais réelle, où Dieu prie pour toi. L'Esprit rend tes prières imparfaites, il les prend et il les envoie à Dieu le Père de manière parfaite, parfaitement recevable à Dieu. Ça, cette vérité-là, elle est à la fois profondément réconfortante et extrêmement motivant. Réconfortant parce que ça veut dire que dans les moments les plus difficiles de ta vie, t'as quelqu'un qui t'aide, qui te porte, qui est là et qui t'encourage. Et extrêmement motivant parce que ça veut dire que ça vaut la peine de continuer à prier, même maladroitement, même courtement, brièvement, même avec des mots ultra simples, même avec des soupirs. Parce que Dieu prend ça et il prie pour toi. Tu n'as plus besoin d'attendre d'être en forme pour prier. Tu n'as plus besoin d'être en santé spirituelle pour pouvoir prier. Tu peux juste venir comme tu es et savoir que dans cet endroit-là, Dieu ne reste pas distant. Il s'approche, il agit et il prie pour toi. Mes amis, à la fin du culte, je vais vous parler qu'on a notre réunion de prière la semaine prochaine. Je veux vraiment vous encourager à venir. Parce que cette vérité-là, que l'Esprit de Dieu prie pour nous, est tellement puissante qu'elle devrait nous encourager à prier. Vous savez, ce mercredi, on va prier pour des frères, des sœurs qui ne savent plus quoi dire, qui ne savent plus quoi prier au vu de la situation qui se passe dans le monde. Notre présence va pouvoir faire toute la différence, va pouvoir les encourager, les porter dans leur combat. On va pouvoir nous-mêmes exposer nos combats devant Dieu. Et le Saint-Esprit va amener ça devant le Père comme prière parfaite, comme quelque chose où Dieu va dire « Je vous ai entendu, puis je vais vous exaucer ». Je voulais faire cette petite parenthèse ici parce que je pense que notre Église doit apprendre à plus prier. Vous savez le nombre de fois où je fais des réunions de prière ici, puis on ne sait pas quoi prier. Puis on est là, c'est quoi les sujets ? C'est exactement ce que le texte parle ici. On doit se réunir. On doit présenter nos soupirs inexprimables à Dieu. Et lui, il va prendre ça. Lui, il va porter ça. Dieu, lui, il va exaucer ça. Je vous adresse vraiment une grande exhortation à venir mercredi prochain. Parenthèse étant faite, on revient dans notre texte. Troisième vérité que je voulais vous partager ce matin, c'est qu'il y a un Dieu souverain qui agit en toutes choses. Et ici, on arrive probablement avec un des versets les plus connus, cette déclaration ultra forte au verset 28, où Paul dit « Nous savons ». Je m'arrête là. Il ne dit pas « Nous pensons, nous espérons », il ne dit pas ça. Il dit « Nous savons ». C'est une certitude. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas juste une option. Ce n'est pas un encouragement un peu vague. Non, 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 c'est une certitude. On le sait. C'est déjà acté. Dans des moments d'attente, de souffrance, d'incertitude, c'est exactement ce qu'on a besoin d'avoir. On a besoin d'avoir des certitudes. Paul nous en donne une. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Pas certaine, pas la majorité. Toutes. Les choses qui font du sens et celles qui n'en font pas. Les moments de joie et les saisons de silence. Les réponses de Dieu et ses délais. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, ce que Paul est en train de déclarer comme certitude, c'est que rien n'échappe à la main de Dieu. Et ce n'est pas du tout un optimisme naïf. Paul ne dit pas « T'inquiète, tout va bien aller ». Non, il est en train de dire « Dieu est au contrôle ». Et il agit sur tout. Je pense qu'il y a un truc qu'on a besoin de comprendre aussi ici, c'est qu'est-ce que c'est que le bien que Paul appelle ? Parce que spontanément, nous, on pense au confort, on pense à des circonstances favorables ou qui nous sont favorables. On pense à une vie plus simple, plus facile. Mais Paul ne parle pas du tout de ça. Il précise dès le verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables ». À l'image de son fils. Le bien que Dieu poursuit dans ta vie, ce n'est pas d'abord que tout se passe comme tu l'avais prévu, mais c'est que tu ressembles à Jésus. Et ça vient bouleverser profondément de voir notre manière de voir les choses, de voir les circonstances. Parce que ça veut dire que même ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est difficile, même si tu n'aurais jamais choisi ça, Dieu est en train de l'utiliser. La vraie question n'est donc pas seulement, n'est pas pourquoi ça m'arrive, mais plus, est-ce que je vois comment Dieu est en train de me rendre plus semblable à son Fils ? Question pour toi. Est-ce que tu arrives à voir ta vie comme ça ? Est-ce que tu es conscient que même dans l'attente, même dans la souffrance, Dieu est en train de te former ? Et Paul ne s'arrête pas là. Il nous donne de quelque chose d'encore plus solide, comme une chaîne, ce que beaucoup appellent la chaîne du salut. Verset 30, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. » C'est comme si Paul nous faisait remonter toute l'histoire de l'humanité, depuis même avant que tu existes, jusqu'à la gloire finale. Et tout est tenu par Dieu. Tout est lié. Il dit une chose, il répète la chose avant de dire la prochaine. Tout est lié, tout est entremêlé. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Ce qu'il a décidé, il l'accomplit. La manière dont Paul parle ici est frappante. Il dit « il les a glorifiés ». Il le dit au passé, comme si c'était déjà fait. Pourquoi ? Parce que pour Dieu, c'est certain. C'est comme si c'était déjà fait. Autrement dit, si tu es en Christ aujourd'hui, ton avenir est déjà sécurisé. Tu es dans un processus que Dieu lui-même a initié, un processus qui dirige, un processus qui va aboutir. Un jour, tu seras semblable à Jésus. Un jour, tu seras libéré de tout ce qui te fait lutter aujourd'hui. Un jour, tu seras avec lui, dans un corps glorifié, pour toujours. Et tout ce que tu vis maintenant ne fait partie que de ce chemin pour arriver là. Rien n'est perdu, rien est inutile, rien n'échappe au plan de Dieu. Dieu est en train de te rendre semblable à l'image de son Fils. Et il ne va pas s'arrêter là. Le temps me manque pour parler complètement de tout ce texte. Mais je voudrais vous encourager cette semaine à lire Genèse chapitre 37 jusqu'à 50 et découvrir l'histoire de Joseph, l'histoire incroyable de Joseph. À quel point cet homme, toute sa vie, a l'impression que c'est un désastre. Il passe par des montagnes russes émotionnelles incroyables. Un jour, il est au plus bas, un jour, il est au plus haut de tout le pays. Puis, quand on prend le recul, à la fin, Genèse 50, il arrive à dire à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien. Cette histoire est incroyable. Les répercussions de cette histoire sont incroyables. Lisez ça, méditez là-dessus. Voyez à quel point ce texte est pleinement dans cette lignée-là. Et je voudrais vraiment t'inviter à prendre un temps, à élargir ton regard. Remonte le fil de ta vie, mais pas seulement de ta vie, remonte jusqu'au cœur même de Dieu. Avant même que tu existes, avant même la fondation du monde, Dieu t'avait déjà choisi pour lui appartenir. Puis un jour, Dieu t'a appelé. Peut-être que ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a été un long processus. Ça a été long avant que tu comprennes ce que Jésus a fait pour toi. Mais un jour, tu as capitulé. Un jour, par la croix, Jésus t'a justifié. Puis maintenant, tu es dans ce long chemin de sanctification jusqu'au jour où on va être tous ensemble glorifiés, dans un corps glorifié avec Dieu. Alors regarde ta vie avec ce regard-là. Tu n'es pas perdu dans le présent. Tu es porté par un plan qui vient de l'éternité et qui va jusqu'à la gloire éternelle. Quatrième et dernière vérité que j'aimerais vous présenter, c'est que Paul nous parle d'un amour invincible qui ne nous séparera jamais de lui. Paul nous amène un peu comme au sommet de ce chapitre, un peu comme au sommet même de son épître. Et après avoir dit, après avoir élargi notre regard sur la gloire à venir, après avoir nous a montré l'aide de l'Esprit, après nous avoir assuré que Dieu agit dans toutes choses, il nous conduit à l'endroit le plus solide qui soit, à savoir son amour. Il ne nous laisse pas avec des hypothèses, il nous laisse avec une certitude. Verset 31, il dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Mes amis, ce n'est pas une question ouverte, une question rhétorique ici, où la réponse est « personne ». C'est une déclaration en fait. Dieu est pour nous. Un point, c'est tout. Paul ne nous demande pas de croire aveuglément. Il nous donne une preuve. Il nous amène en fait à un événement majeur, crucial, un événement le plus central de toute l'histoire de l'humanité, à savoir la croix. Verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Voilà le centre, voilà la preuve de son amour, voilà le moment où l'amour de Dieu a été exposé au monde entier, démontré, scellé une fois pour toutes, pour nous tous. Dieu n'a pas retenu ce qu'il avait de plus précieux. Il n'a pas hésité, il n'a pas reculé. Il a donné son Fils. Et si Dieu a fait cela, alors tout le reste est assuré. Ce n'est pas basé sur nos circonstances, ce n'est pas basé sur ce que l'on ressent aujourd'hui ou comment je me sens, bien, pas bien. C'est basé sur quelque chose qui a déjà eu lieu, un acte historique, un acte définitif. La croix, ce n'est pas juste un symbole qu'on affiche quelque part. Non, c'est la preuve irréfutable de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. L'amour qui l'a poussé à donner son propre Fils pour nous. Et Paul continue en nous emmenant dans une scène un peu presque comme dans un tribunal. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est un peu comme ces voix qui nous accusent, des pensées qui reviennent, des souvenirs qui nous pèsent. Ah, et t'as fait ça, alors ah, ça veut dire que... Ben non, Dieu qui justifie. Et au milieu de toutes ces voix, il y a cette voix qui sort encore plus fort. C'est Dieu qui m'a justifié. Christ est mort pour moi. Bien plus encore, il est ressuscité et il vit en moi. Et maintenant qu'il vit en moi, il connaît mes besoins et donc il prie pour moi auprès du Père. Ta sécurité ne se repose pas sur ta capacité. Elle repose sur l'œuvre de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alors Paul pose la question centrale et la dernière question. Qui osera, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Il regarde la réalité en face. Il essaye de faire une liste. Une liste qui... tellement pertinente aussi pour nous aujourd'hui. Il ne minimise rien. La détresse, l'angoisse. Combien de personnes luttent avec l'angoisse ici? La persécution, peut-être que ça nous touche moins. Le manque, le danger, même la mort, le présent, l'avenir. Tout ce qui, humainement, nous pourrait nous faire douter, dit que ça n'arrivera pas. Et il arrive avec cette conclusion, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance. » L'assurance, mes amis. J'ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. 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 J'étais clair ? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Mes amis, cette réalité est absolument incroyable. J'aimerais vraiment ça, que vous méditez là-dessus. J'avais entendu une histoire que j'aimerais vous raconter. L'histoire d'un jeune homme qui est en voyage avec son père sur un grand bateau. Puis ils sont en plein milieu de l'océan. Alors ils décident de monter sur le ponton et puis d'aller observer l'eau à perte de vue. Ils regardent à droite, à gauche, devant, derrière, juste de l'eau. De l'eau à perte de vue. Pas de terre en vue. Puis ce garçon pose une question à son père. « Papa, combien est grand l'amour de Dieu ?» Son père vient lui répondre et va lui dire « Regarde à ta droite, regarde à ta gauche, regarde devant, regarde derrière, regarde la hauteur du ciel, puis regarde sous tes pieds, regarde la profondeur de la mer, de l'océan. » Tu vois ça? L'amour de Dieu est aussi grand que ça. Puis là, l'enfant, il commence à réfléchir. Puis il se dit, ah ouais, c'est incroyable, ok. Puis là, il revient. Hé, mais papa, ça veut dire qu'on est en plein milieu de l'amour de Dieu. Mes amis, c'est exactement ça. C'est exactement ça que Paul est en train de nous dire. Il vient de dire, peu importe où tu vas, peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, tu es en plein milieu de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas échapper à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Peu importe que ce soit un calme plat, peu importe que ce soit la plus grosse tempête de ta vie, tu restes au cœur même de l'amour manifesté par Jésus-Christ, l'amour de Dieu, énorme pour toi et pour moi. J'aimerais inviter les musiciens à me rejoindre. Puis j'aimerais juste conclure en revenant là où on a commencé, avec mon fameux permis de travail, nos fameux permis de travail avec Léa. Amen. Dieu a agi, Dieu est intervenu, Dieu a ouvert la porte, Dieu nous a donné ce magnifique permis de travail pour une durée de 5 ans, alors que tout nous disait que ce n'était pas possible. Et on s'est réjouis ensemble. Mais avec le recul, j'ai réalisé une chose. Je réalise que même si la réponse aurait été différente, même si on avait dû repartir, même si ça s'aurait été terminé différemment et peut-être dramatiquement, ça n'aurait rien changé. Absolument rien changé aux vérités qu'on vient de voir ce matin. Ça n'aurait rien changé qu'au fait qu'il y ait une gloire à venir incomparable au lot de souffrances que ça nous aurait amené. Ça n'aurait rien changé au fait que l'Esprit m'accompagne dans ma faiblesse et qu'il intercède auprès de moi, auprès du Père, dans cette situation précise. Ça n'aurait rien changé au fait que Dieu agit encore et qu'il est au contrôle et que toute chose est entre ses mains. Et ça, depuis toute éternité. Et surtout, ça n'aurait absolument rien changé à l'amour de Dieu pour moi, pour ma famille, pour l'Église. Pourquoi ? Parce que cet amour n'est pas basé sur mes circonstances, sur un permis de travail. Il est basé à la croix, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les souffrances de l'attente se déroulent à l'intérieur d'une histoire déjà scellée par la croix, par la résurrection et l'amour de Dieu. Dieu n'a pas prouvé son amour envers moi ces dernières semaines avec un permis. Il me l'a prouvé en me donnant son Fils pour moi, pour que je puisse vivre avec lui. Peut-être que toi, ce matin, tu es encore dans l'attente. Peut-être que ta situation n'a pas encore changé, ou peut-être que la réponse que tu as eue n'est pas celle que tu souhaitais. C'est exactement là que Romains 8 te rejoint et veut t'encourager. Il ne nie pas ta réalité, il ne minimise pas ta souffrance, mais il vient déposer dans ton cœur une espérance plus grande que celle que tu vois aujourd'hui. Les vérités, des vérités assez solides pour te relever quand tout vacille. Des promesses assez sûres pour te porter, même quand rien ne bouge. Romains 8 agit comme une encre dans nos vies. Une encre qui tient ferme, même au cœur des souffrances de l'attente. Il nous tient au milieu d'un amour inséparable de Dieu pour toi et pour moi. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage absolument magnifique. Seigneur, mon cœur est dans la joie, dans une reconnaissance énorme de savoir que tu m'as aimé, que tu me tiens au cœur de ton amour. Merci pour ces vérités. Aide-moi à relever la tête. Aide-nous à relever la tête, à voir la gloire à venir qui nous est réservée, à baser notre vie, notre espérance sur ce que toi tu as promis, sur ce que toi tu nous réserves. Seigneur, habite-nous toujours plus de ton esprit en nous. Intercède, continue d'intercéder pour nous, que ça nous pousse à toujours plus venir proche de toi, qu'on puisse sentir ta présence encore et encore dans les saisons les plus douloureuses de notre vie. Seigneur, que notre compréhension, que ce qu'on a dans la tête, nous aide à comprendre que tu restes au contrôle. Seigneur, merci pour ton amour, absolument incroyable pour nous. Aide-nous à nous rappeler de ce passage. Seigneur, Romains 8 est, dans son ensemble est incroyable. Commence avec plus de condamnation. On peut être libre, on peut voir notre vie comme étant enfant de Dieu. Et termine avec plus de séparation. Ton amour est infini. Tes richesses sont certaines et glorieuses et nous attendent. Aide-nous à saisir ces vérités et glorifie-toi dans notre vie. Nous t'en supplions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.